Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Vassivière, votre radio locale, mais aussi de saison. Vous écoutez La Quotidienne, c'est l'émission de l'équipe de Radio Vassivière. La Quotidienne, d'habitude, c'est tous les jours de la semaine de 17h à 19h, en rediffusion à 8h et à midi. Et pourtant, vous ne rêvez pas, vous regardez votre montre et il est peut-être midi au moment où on s'écoute. Et c'est bien normal puisqu'on est exceptionnellement au festival Paroles de Conteurs pour toute la semaine. On rebouge La Quotidienne de midi à 14h pour cette semaine ensemble. Donc voilà, une semaine assez exceptionnelle, encore plus exceptionnelle car je suis en excellente compagnie. Avec moi, il y a Florane. Salut Florane, tu vas bien ?
Salut tout le monde, salut Justine.
Ça va et toi ? Ça se passe bien ?
Bah super, oui.
Alors là, le temps est un peu capricieux, mais on va essayer de s'en sortir quand même. Peut-être qu'il y aura de l'habillage sonore naturel au bout d'un moment. À tes côtés, il y a ta camarade de jeu, il y a Jeanne. Salut Jeanne, tu vas bien ?
Bonjour Justine, ça va bien et toi ?
Ça va bien, ça va toujours bien. Et à tes côtés, il y a Emilia. Emilia, salut, tu vas bien ?
Oui, bonjour Justine. On est parti à la chasse aux escargots ce matin avec la pluie.
Et oui, tout à fait. Et toi, tu vas nous ramener des conteurs et des conteuses aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Et puis quelques toujours saupoudrés de la présence des bénévoles.
Tout à fait. Et à côté de toi, évidemment, il y a Elliot. Elliot, c'est ton dernier mardi en Creuse. Qu'est-ce que ça te fait ?
C'est mon dernier, mais je suis désespérée, Justine.
On va continuer le compte à rebours jour par jour. Et puis, on ne l'entendra pas au micro, mais évidemment, l'homme de l'ombre, il y a Didier avec nous, Didier à la technique. Est-ce que tu veux bien faire une remontée pour te signaler ? Voilà, merci Didier. Et puis à tes côtés, il y a un invité tout spécial, à la fois un habitué de Radio Vassivière et un habitué du festival Paroles de Conteurs. C'est Jean-Michel Arnaud. Salut Jean-Michel, comment ça va ?
Bonjour. L'arrivée tonitruante. Ça va très bien Justine, merci beaucoup. Bonjour à toutes, à tous d'être là. Alors effectivement, on est comme ça sur... ce festival du conte en direct, ça me rappelle plein de souvenirs.
Et d'ailleurs, les souvenirs, on en parlera, je pense.
Oh bah oui,
après,
c'est l'année où on parle un peu de passé. J'espère qu'on va parler aussi d'avenir. Oh mais bah. Ouais, les 30 ans, c'est l'occasion d'évoquer évidemment plein de choses qui sont passées en 30 ans sur ce festival. Il y en a tellement.
Et oui, et du coup, on se donne rendez-vous à 12h30 pour fêter en ta compagnie ces 30 ans. D'ailleurs, ce soir, il y a une fête des 30 ans du festival Paroles de Conteurs.
Oui, ça va être une belle fête à 22h30. Il va y avoir plein de surprises. Et pas que des contes, il va y avoir des chansons aussi. Enfin, on en a pour un long moment, je pense, jusqu'au bout de la nuit.
Super, bah j'ai très hâte. Voilà, mais ça n'est pas tout ce qu'on va écouter. Qu'est-ce qu'on écoute aussi, Jeanne ?
Alors aujourd'hui, on va aussi retrouver l'agenda. On va écouter les messages que vous nous avez laissés cette semaine.
Puis il y aura aussi le fameux jeu du dictionnaire hein, où on vous fait deviner un mot. Et aujourd'hui, vous pouvez gagner eh bien, un magnifique porte-clés voilà, en pomme de Touline qui vient de Corrèze et qui est offert par Au fil des nœuds.
Voilà, qui est fabriqué à la main.
Ah oui, à la main, artisanale, voilà.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on écoute d'autre, Emilia ?
Aurélien Ossé qui nous fera la Minute Papillon, l'épisode 13. Aujourd'hui, ça sera les stratégies des papillons.
Voilà, et donc, comme d'habitude, il y aura aussi plein de surprises, des invités, des gens qui vont venir. On écoutera de la musique, enfin bref, on écoutera plein de choses. Mais tout de suite, on va écouter le journal régional. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu ?
Eh bien, alors, un animateur saisonnier du centre de loisirs du Chambon à Laguenne-sur-Avalouse a été mis en examen pour viol et agression sexuelle.
6 sapeurs-pompiers corréziens sont partis en renfort en Espagne, actuellement touchés par de violents incendies.
Et enfin, le Tour du Limousin 2025 s'élance ce mardi 19 août depuis Panazol, en Haute-Vienne.
Voilà, tout ça et bien plus encore, c'est dans le Journal du Graal. Il est présenté, comme d'habitude, par Sébastien Péjou.
L'actualité en Limousin et Périgord, le journal des radios associatives libres. Sébastien Péjou.
Bonjour à tous. Mardi 19 août 2025, un animateur saisonnier du centre de loisirs du Chambon à Laguenne-sur-Avalouse, près de Tulle, est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans, ainsi que pour captation d'images à caractère pornographique. Les faits auraient été commis au sein même du centre. L'animateur avait été placé en garde à vue le 12 août, puis présenté à un magistrat le 14. Présumé innocent, il a depuis été placé en détention provisoire. La ville de de Tulle a suspendu l'animateur à titre conservatoire et affirme apporter son soutien aux familles concernées. Parallèlement à l'enquête judiciaire, le préfet de la Corrèze a demandé l'ouverture d'une enquête administrative sur le fonctionnement du centre de loisirs. Un père et son fils ont été interpellés hier à Brive dans le quartier du Bouquet après avoir déployé sur leur balcon un drapeau français floqué du sigle nazi SS. L'alerte a été donnée par un voisin dans la matinée. Sur place, les policiers ont constaté l'inscription réalisée au marqueur noir et ont aussitôt procédé aux arrestations. Âgés de 38 et 18 ans, les deux hommes ont été placés en garde à vue. Le parquet de Brive a ouvert une enquête pour apologie du crime de guerre. La semaine dernière à Limoges, deux interpellations ont eu lieu lors d'une vaste opération de police menée dans le quartier de Beaubreuil et de la Batide, ciblant les rodéos urbains et le trafic de stupéfiants. À Beaubreuil, un jeune homme de 21 ans a été arrêté alors qu'il circulait sur une moto volée. Connu de la justice, il devra comparaître le 5 novembre prochain. Un peu plus tard, dans le quartier de la Batide, c'est un adolescent de 16 ans qui a été interpellé, surpris en plein rodéo urbain au guidon d'une moto volée le jour même. Il sera présenté lui aussi devant le juge des enfants le 16 septembre. L'un des deux jeunes hommes victimes d'une double noyade dimanche à l'étang de Jonas à Ambazac est décédé hier. Âgé de 18 ans, il avait été transporté en urgence absolue au CHU de Limoges avec son frère de 19 ans, toujours hospitalisé. Une enquête a été ouverte afin de comprendre les circonstances du drame. La municipalité d'Ambazac a mis en place une cellule psychologique destinée aux témoins et aux proches. Six pompiers corréziens ont pris la route hier avec un camion-citerne feu de forêt et un véhicule tout-terrain direction l'Espagne, actuellement frappé par de violents incendies. Après avoir participé aux renforts nationaux en France ces derniers jours, le SDIS de la Corrèze s'engage cette fois au titre de la solidarité internationale. Et puis le Tour du Limousin 2025 s'élance ce mardi 19 août depuis Panazol en Haute-Vienne pour cette 58e édition. 18 équipes et 123 coureurs sont au départ malgré deux forfaits de taille. Le champion de France, Dorian Gobon, malade, ainsi que son coéquipier Benoît Cosnefroy, tous deux de l'équipe Decathlon AG2R la mondiale. Ils sont remplacés par l'Italien Andrea Vandram, déjà vainqueur d'étape sur le Giro, et par le Belge Loïc Bosmer. Les coureurs attaquent par la plus longue distance aujourd'hui, 184,6 km. Christian Courbater, président du Tour du Limousin-Périgord Nouvelle-Aquitaine, au micro Kaolin de Julien Firlet.
Donc effectivement, c'est une première étape qui va être assez longue par rapport aux autres étapes habituelles. Les autres années, la première étape fait toujours 160, 165, 170 km gros max. Et là, on dépasse les 180 km. Bon, c'est comme ça, c'est pas, ça n'a aucune incidence, mais c'est vrai que la première étape, en plus, elle est costaud. Puisque on va traverser tout le plateau de Mille Vaches, donc il faut déjà y monter dessus. Et le circuit final avec plusieurs grimpeurs, ils sont tous dans le final. Hein. Donc oui, ça va être du costaud.
Quatre étapes à travers le Périgord Limousin, de la Haute-Vienne à la Creuse aujourd'hui, en passant par la Dordogne demain, la Corrèze jeudi, avant une arrivée finale vendredi à Limoges. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.
Et tout de suite, sans transition, on écoute une chanson du film Rocky Horror Picture Show, Over at the Frankenstein Place. On met de côté la playlist de l'été, car aujourd'hui, on a un climat bien électrique et bien sombre avec beaucoup d'orages. Et pour vous mettre dans l'ambiance, on vous lance la musique.
Tout à fait.
Darkness of every into my life.
Et on n'a toujours pas écrit de transition, mais on écoute l'agenda, on écoute les messages que vous nous avez laissés.
Vous avez appelé le bureau du bonheur, ne quittez pas.
Le numéro que vous demandez n'est pas attribué.
Bonsoir, c'est Christine. Il faut absolument que je te parle.
Veuillez consulter le service des renseignements.
C'est le moment du répondeur, c'est le moment des auditeurs.
Bonjour, mardi 19 août à 17h30 au Fabuleux Destin à Aubusson et jeudi 21 août à 18h aux Ateliers de la Mine à Laveyse-les-Mines. Venez vous initier au Kundalini Yoga, une pratique ancestrale à la fois revigorante et apaisante. Venez avec un tapis, un coussin, une bouteille d'eau et une couverture pour la relaxation. Et soyez en tenue souple ou ample. Ces cours sont ouverts à toute personne à partir de l'âge de 15 ans et une participation de 10 euros est demandée par personne et par cours. Vous pouvez me contacter au 06 07 44 83 06 pour réserver une place et demander des informations complémentaires. Belle journée!
Oui, coucou Radio Vassivière, c'est Guillaume Avalière qui vient vous annoncer deux manifestations en une. Alors, tout d'abord, l'exposition estivale à la mairie de Vallières, salle du conseil municipal. Alors chaque année, depuis plus de 20 ans, nous accueillons des artistes, des peintres, un petit peu de tout. Et voilà, donc cette année, nous avons une série photographique de Joël Comancini, qui présente ses magnifiques clichés et ses œuvres. Et nous avons aussi la joie d'accueillir des huiles sur toile par Aline Marteville. Aline Marteville est une habitante de la commune de Vallières et de ce fait, par l'occasion, elle nous propose aussi des animations. Donc en doublon de cette exposition estivale, elle vous propose trois dates. Mercredi 30 juillet, mardi 5 août et mardi 19 août. Trois dates, trois actes, parce que Aline Marteville est aussi chanteuse, cantatrice et musicienne. Donc elle se présentera dans ces trois dates en one woman show avec voilà une composition création, texte et chant, des petites représentations donc dans l'exposition donc à la mairie de Vallières, exposition estivale donc avec des animations proposées par Aline Marteville. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.
Mercredi 20 août prochain, on vous attend nombreuses et nombreux au plan d'eau d'Ahun à partir de 15h pour le deuxième et dernier mercredi d'Ahun de la saison. Au programme tout l'après-midi, des animations pour petits et grands avec notamment la bouquinerie vagabonde, ses jeux en bois géants, son petit manège et l'univers de Milena Rilska qui proposera ses maquillages et tatouages éphémères. À partir de 17h, c'est l'heure de faire vos emplettes sur notre petit marché artisanal semi-nocturne. Une vingtaine d'artisans, artisanes, producteurs, productrices de produits locaux, d'associations locales vous attendent pour vous faire découvrir leurs créations et activités. Enfin, à partir de 19h30, on voyage du côté de la Guinée avec la troupe de percuée danse africaine Tosogué. Buvette, tenue par notre association, crêpes sorbet tout l'après-midi et pour la restauration, c'est Queer Food Truck qui nous régalera de ses burgers et frites maison. Artisans, artisanes, producteurs, productrices de produits locaux, associations locales, si vous souhaitez exposer, c'est encore possible. Contactez-nous au 07 63 94 90 43 07 63 94 90 43 ou par mail à caravanedeslibertes@protonmail.com. Programme et infos complémentaires sur notre site www.lacaravanedeslibertes.wordpress.com. On vous attend mercredi 20 août prochain au bord du bel étang d'Ahun, les pieds dans l'herbe, pour passer un bel après-midi et une belle soirée.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom à la médiathèque de Feltin qui vous parle pour vous annoncer cette fois-ci que nous accueillons un spectacle de paroles de conteurs, ce fameux festival qui prend place en général à Vassivière. Et bien là, nous avons un spectacle à la médiathèque à Feltin, Trois grains de sumac, un spectacle par Claire Bastier, des contes merveilleux de Palestine. Spectacle composé de contes traditionnels entremêlés de poésie et de chants en arabe. Chaque histoire convoque le merveilleux, l'humour, la cuisine, évoque le lien à la terre, aux plantes, aux animaux. Ce sera le jeudi 21 août à 10h30 à la médiathèque à Feltin.
Salut Radio Vassivière, c'est Lauriane pour les guinguettes de la show Agence Pigerolles. Vendredi 22 août, nous revoilà et c'est reparti pour une guinguette fermière. À partir de 18h, stand de producteurs locaux avec du miel, du pain, du fromage, du jus de pomme, etc., etc. De 19h à 21h, repas concoctés par Rafedou. Au menu cette semaine, roulé de courgettes panées au fromage frais, ragoût blanc d'agneau au lait, compote façon crumble et caramel au beurre salé maison. Le menu est à 17€. La réservation est plus que conseillée et c'est au 06 66 24 54 41 06 66 24 54 41. À partir de 21h, récital de violon. Dans ce récital construit comme un aller-retour entre les siècles, Camille Vasseur explore les multiples visages du violon, en alternant violon baroque et violon moderne. À travers ce dialogue entre ancien et contemporain, elle interroge la continuité d'un instrument qui, malgré l'évolution de sa facture et de ses répertoires, reste profondément lié à la voix humaine, au souffle, à l'élan du corps. Donc, si vous avez des questions sur cet événement ou si vous voulez réserver votre repas, je vous rappelle le numéro 06 66 24 54 41. Au plaisir de vous retrouver aux guinguettes fermières de La Chaux sur la commune de Jean-sous-Pigerolles. À bientôt.
Oyez, oyez, nous vous invitons à Émoutiers pour un concert le samedi 23 août à 20h. Ce sera sur la scène de la magnifique grange culturelle de la Baleine du Mont. Le prix est libre pour l'entrée adhésion à l'assaut. Il y aura un food truck et une bouillette. Le groupe Gare de l'Est rythmera le début de soirée avec de la musique balkanique et zygane entraînante, sortie des tubas, accordéons, clarinettes, sax et chanteurs. Après, nous accueillerons DJ David, il lancera une partie groovy soul funk. En bref, escalader la montagne pour une soirée hyper festive. Ce sera le concert le samedi 23 août à partir de 20h à Émoutiers, deux routes du Mont, à la salle de la Baleine. À bientôt.
Relief est une nouvelle association qui organise toute l'année des formations pour les habitants et les professionnels de la montagne Limousine. Vous souhaitez apprendre à faire des enduits à la chaux? Relief propose une semaine d'initiation avec Solène Delahousse, professionnelle depuis 30 ans. Elle vous expliquera comment réaliser des enduits simples, vivants et colorés. Quelques cours théoriques et beaucoup de pratiques vous permettront de vous initier aux différents enduits, talochés, lissés, colorés, dans la masse ou en surface. En parallèle, se tiendra une spécialisation Tadlact. Pour les personnes déjà initiées aux enduits à la chaux, vous pourrez apprendre la technique du Tadlact pendant 5 jours et devenir autonome dans la réalisation de cet enduit très beau mais aussi très exigeant. Cette formation s'adresse notamment aux professionnels. Elle dure 5 jours et se déroule du 1er au 5 septembre à Jean-sous-Pigerolles. Renseignements et inscriptions par mail à contact@of-relief-au-pluriel.fr ou par téléphone au 07 80 01 55 13. Soigner les plantes par les plantes, c'est ce que Relief vous propose de découvrir à travers cette formation animée par Éric Petiot. Vous verrez comment réaliser des préparations insecticides, fongicides et stimulantes à base de produits naturels et facilement accessibles. Vous découvrirez également quelques fondamentaux agronomiques dans le but d'aller vers une forme d'autonomie. Cette formation s'adresse à toutes et tous, elle dure 2 journées et se déroule les 17 et 18 septembre à Tarnac. Renseignements et inscriptions par mail à contact@of-relief-au-pluriel.fr ou par téléphone au 07 80 01 55 13. Vous aimeriez apprendre à conserver vos fruits et légumes, voire à les transformer pour les rendre encore plus bénéfiques pour la santé? Relief propose une journée pour mieux comprendre la lactofermentation et la pasteurisation, deux méthodes de conservation des aliments. En présence de trois formatrices expérimentées, vous découvrirez comment réaliser sans risque des conserves pasteurisées ou lacto-fermentées à partir des produits du jardin, grâce à une meilleure connaissance des mécanismes biologiques, et le tout sans investissement coûteux. Cette formation s'adresse à toutes et tous, elle dure une journée et se déroule le samedi 20 septembre à Émoutiers. Renseignements et inscriptions par mail à contact@of-relief.fr ou par téléphone au 07 80 01 55 13.
Fin des nouveaux messages. Si vous souhaitez les réécouter, rendez-vous à 6h, 7h, 9h et 17h du lundi au vendredi et les week-ends à 6h, 7h, 9h et midi sur Radio Vassivière. Si vous souhaitez envoyer vous-même un message, composez le 05 55 64 71 11. Vous pouvez maintenant raccrocher.
Le jeu du dictionnaire.
Et il est 17h30 sur les ondes de Radio Vassivière, 17h32 même, pas du tout 17h, midi 32. J'avais dit que j'allais me planter quelque part dans cette suite de direct. Il est midi 32, excusez-moi, sur les ondes de Radio Vassivière. C'est l'heure du jeu du dictionnaire qui, d'habitude, vous l'avez compris, est à 17h30. Le jeu du dictionnaire, qu'est-ce que c'est? Puisque je dis que des bêtises, je pense qu'il vaut mieux que je confie cette mission à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un veut bien m'expliquer ce que c'est le jeu du dictionnaire, Florane?
Alors le jeu du dictionnaire, tu donnes une définition choisie avec soin ce matin par toi-même.
Et par moi-même, tout à fait. Je suis à la fois jugée partie. C'est...
D'un mot. Et les auditeurs doivent trouver ce mot et t'appeler. Et s'ils réussissent à trouver le bon mot, ils peuvent remporter un petit lot local. Et aujourd'hui, c'était des porte-clés fabriqués à la main par une association...
En pomme de Touline, voilà, c'est ça.
En pomme de Touline.
Par l'association Au fil des nœuds.
En Corrèze.
En Corrèze.
Exactement, et qui nous l'ont offert, donc évidemment, on les remercie bien. Donc il y a deux lots à gagner aujourd'hui, on pourra avoir deux gagnants, deux gagnantes. Par exemple, un au téléphone et un qu'on ira chercher ici sur le festival. Et alors, si les gens ont une réponse et qu'ils ne sont pas avec nous sur le festival, comment est-ce qu'ils font?
Ils nous appellent.
Exactement. Et quel est le numéro auquel ils nous appellent?
Au 05 55 64 71 11.
Exactement. Et puis, évidemment, pendant ce temps-là, nous, on écoutera un morceau. Alors, maintenant que vous avez bien tout compris et que vous êtes prêts et prêtes à jouer, c'est l'heure de la définition. Roulement de tambour, nous cherchons un nom féminin qui désigne un bruit qui court, une nouvelle qui se répand dans le public, dont l'origine et la véracité sont incertaines. Voilà, donc si ça vous évoque quelque chose, eh bien, vous nous appelez au 05 55 64 71 11, ou alors vous courez vers nous sur notre stand si vous êtes au festival Parole de Contar. Pendant ce temps-là, nous, on écoute un morceau de notre playlist dramatique. C'est The Cryptids, notre groupe d'horreur punk tournésien préféré. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, cela dit. Ça s'appelle UFOs Attack on the Beach, avec deux points d'exclamation. Et voilà, c'est sur ces dernières notes pour le moins dramatique. On vous a pas menti quand on vous avait dit que c'était une playlist dramatique que s'achève le jeu du dictionnaire, en tout cas pour aujourd'hui. Alors on a eu une première gagnante, une gagnante numérique qui nous a appelé de la lointaine contrée de La Rochelle. Et c'est ma maman, elle a trouvé la bonne réponse, félicitations à elle. Mais du coup, je propose, il y a Jean-Michel qui a proposé d'aller chercher un deuxième candidat sur place, sur le festival. Alors Jean-Michel, est-ce que tu m'entends? Et est-ce que tu as un invité qui pourrait vouloir jouer au jeu du dictionnaire?
Alors, le jeu du dictionnaire, tu avais trouvé le mot?
Bon, rumeur, peut-être.
Exactement, bravo, tu vois.
Ouais, bravo.
Mais en fait, j'ai un petit peu triché, figurez-vous. Mais il mérite tellement son cadeau.
Bien
à côté
sûr.
De moi, sur ce site d'Ophel, chère Justine et chère équipe de Radio Vassivière, parce que là, je suis en plein milieu de, des festivants qui sont en train de manger, bien sûr, bien qu'ils s'alimentent, ces gens. Parce que malgré tout, ils se nourrissent, l'esprit d'histoire magnifique, mais là, ils sont en train de manger. J'irai les voir tout à l'heure. Tiens, on va les embêter un peu. Mais à côté de moi, un homme, un pilier du festival qui est là depuis des années. Vous remarquez son élégance et sa tenue vestimentaire tout à fait particulière. C'est lui qui est là. C'est l'homme c'est notre guide, c'est notre lumière dans la nuit, parce qu'il est là aussi la nuit, très tard le soir. Comment vas-tu?
Oh ben moi je vais bien. Et puis ma foi aujourd'hui, la pluie va nous permettre d'arroser ces 30 ans. C'est merveilleux.
Exactement. Le jeu de mots toujours là. Ton accordéon, tu l'auras peut-être bien cet après-midi, en tout cas quand les gens font la queue comme ça pour rentrer dans le chapiteau, parce que t'es l'homme à tout faire ici. C'est-à-dire que tu es là, tu es le crieur public, tu es celui qui guide les gens, tu es celui qui les renseigne, et avec toujours beaucoup de sympathie et beaucoup de fantaisie. Depuis combien de temps est-ce que tu es là sur ce festival interculturel du conte?
Je ne sais pas, peut-être 7-8 ans, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, quelqu'un m'a dit, non, je crois que vous étiez là il y a plus longtemps que ça, parce que c'est les gens qui me parlent, évidemment, c'est eux qui disent depuis combien de temps je suis là, moi je ne sais plus.
Élément essentiel et fantastique, un peu, tu sors d'un conte merveilleux. Comment tu travailles ton look?
Oh ben mon loup, je le travaille un peu au hasard. Alors là, sur la tête, j'ai un chapeau qui est fabriqué. Alors avec un objet qui était destiné à recevoir des sucettes, vous savez, des
choupa choups.
Voilà, des choupa choups. Alors c'est une grosse choupa choups en fait que j'ai mis à l'envers pour faire mon chapeau. Dessus, j'ai mis une jupe parce que ça, voilà, ça lui donne des couleurs. Et donc on voit plus la sucette en dessous, mais en tout cas on devine la forme. Voilà. Bon, et puis pour faire les cheveux, ben c'est une autre jupe en daim avec des lanières en daim noir, et puis par-dessus, entre le chapeau et puis cette perruque pas du tout ordinaire, eh bien j'ai mis un apron qui fait une espèce de frange de cheveux blancs, je ne sais pas, voilà. Donc tout est un peu, voilà, il y a une cravate de clown qui est un peu, voilà, jaune à pois blanc.
C'est magnifique. Et aujourd'hui, donc la particularité, c'est que tu portes une jupe, on dirait une sorte de cendrillon en lambeaux, mais les lambeaux sont décorés de nœuds de plein de couleurs, t'as un petit sac avec des petits rubans, et alors c'est le jour porte-bonheur ou la journée ensoleillée, je sais pas ce que tu m'as dit tout à l'heure, si tu veux que la journée soit belle, on prend un petit ruban, on l'attache à ta jupe. Ça, c'est des idées dingues, mais vous êtes dingue, mon ami, vous êtes dingue.
Oui, un peu, mais disons que ça permet comme ça aux festivaliers, ben, c'est eux qui font le festival, ben, ils font ma tenue aussi, quoi. Il n'y a pas de raison. Quoi. Voilà. Et puis j'ai mes chaussettes de Titi et Gros Minet, là, qui sont sympas aussi, une bleue, une jaune, bon voilà. C'est, hein.
Et tu es aussi musicien, tu es accordéoniste, tu joues cet instrument magnifiquement bien, tu nous mets l'ambiance. Bon, ce que je propose aux auditrices, aux auditeurs là, de Radio Vassivière, c'est qu'on aille avec toi sous la toile de tente, on va t'entendre crier un peu et tu sais, on va leur faire une petite surprise. Voilà, comment ça se passe? Où est-ce qu'on se met? Par là, pour qu'ils nous captent tous? Ils sont informés? Tu vas pouvoir crier un petit peu. Allez, suivez-nous, vous qui écoutez la radio, vous êtes comme ça, en direct absolu à Ophel. Êtes-vous au courant, mesdames et messieurs?
La sieste, faire la sieste sous la pluie. Bon, remarquez que ça peut être original aussi, hein, en même temps. Voilà. Voilà, non, c'est pas du tout annulé, c'est seulement mis évidemment sous le chapeau. Voilà, donc ça se passera ici, vous n'aurez pas besoin de traverser la route, ni rien, ni de marcher, c'est formidable. Hein, voilà.
Merci beaucoup, ben, voilà, c'est grâce à lui comme ça qu'on est informé. Alors là, ils sont en train de déjeuner, tous les festivaliers, il y a un spectacle en ce moment, c'est François Vermel qui est en train de raconter des choses. J'aperçois évidemment plein de conteurs importants. Bref, on ira tout à l'heure, on y reviendra si vous voulez bien, on ira faire une surprise avec le public. Je reviens vers le studio mobile de Radio Vassivière, qui est un petit peu plus loin sur ce site d'Ophel, sur lequel il faut venir absolument. Venez nombreux.
Eh ben, nombreuses. Bah oui, évidemment.
La pluie a cessé de tomber. Il y a eu quelques gouttes d'eau tout à l'heure. Et puis, ça a permis de rincer tout ça. Et maintenant, vous pouvez venir, c'est tout propre.
Et oui, exactement. Et puis, bah voilà, je te laisse te rapprocher, Jean-Michel. On va parler un peu ensemble de ces 30 ans. Et puis voilà, je vais te laisser t'installer. Est-ce qu'on se met un petit morceau pour le temps de se poser? Je te propose d'écouter un morceau qui s'appelle le Festival du Comte de Vassivière. Moi, c'est ça que j'ai comme titre.
Ah, c'est ça que tu as. Tu veux que je te donne un petit peu plus d'infos là-dessus?
Ah bah ouais, peut-être.
Alors, c'est en fait un morceau qu'on a calé là, juste avant l'émission, avec Didier Lesécher qui réalise l'émission.
Toujours qui est merci, évidemment.
Bah oui, on fait que ça, lui faire des courbettes pour le remercier, Didier. Et donc, c'est l'extrait que Didier lui-même avait filmé, qu'on peut voir sur YouTube, on va en écouter un petit extrait, d'un spectacle que j'avais fait en 2012, en août 2012. Et pour les 18 ans du festival, j'avais proposé à Jean-Louis de faire un spectacle absolument inédit, avec 18 textes, pour les 18 ans, de conteuses et de conteurs. Il m'avait donné un texte que j'avais mis en musique et j'avais chanté tout ça le soir sur le chapiteau avec mes trois musiciens. Franck Mathieu, Didier Vidalba, Franck Mathieu et puis Eric Jacquard à la batterie. Et donc ça avait donné un one shot avec un enregistrement qui avait lieu, il y a un album qui est sorti après, juste sur cette soirée, un album, une soirée, et c'était vraiment voilà. Donc c'est un petit fragment, c'est le final en fait. Là, c'est Armel et Pépo qui avaient écrit ce texte et qui était le final du récital. Donc voilà, c'est un petit bout pour l'ambiance quoi. Sous le chapiteau en août 2012.
Et ben, ça nous mettra tout à fait dans l'ambiance, puisqu'on va après aborder un peu l'anniversaire, non pas des 18 ans, mais bien des 30 ans de Parole de Conteur. Donc effectivement, je propose qu'on écoute ça, et puis comme ça, ce sera une autre manière de faire ta connaissance. Voilà, de retour avec l'artiste finalement, avec
bien
Jean-Michel.
Ouais, c'est très très chaud ce soir-là, c'est une journée de canicule et ça avait été une soirée magnifique. Hein. C'est pour moi un beau, très beau souvenir sur ce festival interculturel du Comte que je fréquente depuis un petit bout de temps. Quoi.
Alors un petit bout de temps, ça fait combien de temps?
Depuis le début en fait, depuis la première édition, parce que à ce moment-là, en 95 donc, j'étais jeune animateur salarié pour l'été, un peu comme vous et comme Loïc, c'est ça qui était là? Non, pas Loïc, Elliot. Comme Elliot. Et voilà, donc au mois d'août arrive ce festival, donc on y monte avec Didier sans doute sur l'île, et puis des gens très importants que moi je connaissais pas vraiment, comme Marcel Delpastre qui était là, qui est une immense écrivaine, qui est décédée maintenant il y a longtemps, mais aussi des gens comme Imbert Télémy, comme Jean Domeyo. Donc c'était la naissance quoi de ce festival. On se doutait pas qu'il allait avoir un succès tel. Et ensuite, très vite, il y a eu beaucoup de monde, on s'est installé dans différents villages, puisque le but, c'était de faire venir un conteur tous les soirs. En fait, l'idée est venue de Jean-Louis Bordier, qui était à ce moment-là responsable de l'animation sur le site. Son bureau était sur l'île de Vassivière. Enfin, vous avez eu sans doute Jean-Louis qui vous a raconté tout ça. Et donc, il s'est dit, il faut avoir un peu de monde dans cette saison qui se termine trop tôt. Le 15 août, déjà, à Vassivière, il y avait moins de monde. Donc, comment retirer un peu la saison, donc en créant un festival, et plutôt après le 15 août. Ce qui a très bien marché, tout de suite. Donc, le festival a été itinérant, voilà, dans différentes communes, entre Ned, Gensioux, bref, les communes du Cimévin. Et puis, il y a eu tellement de succès autour de ce festival qu'on n'a plus pu faire ça. Donc, il a fallu trouver un lieu fixe. Ça a été l'île de Vassivière pendant de nombreuses années. Et puis, c'était un moment magnifique sur l'île. C'était vraiment magique. Ça l'est encore aujourd'hui, un peu moins. Mais il y a quand même des côtés très pratiques aussi d'être à Offel, pour plein de choses. Et bon, voilà, ce festival qui a maintenant 30 ans, qui fête cet anniversaire, avec des centaines de gens, des milliers de gens, hein, parce que c'est avec tous les spectacles qui commencent le matin, comme ce matin, Jean Audigam et Thierry Royer de Vassivière, en extérieur. Ce soir, ça va se terminer ici. Des spectacles à 15h, des spectacles à 11h, des apérocontes. Donc, en gros, c'est plus de 2000 personnes qui circulent sur une journée, donc multiplié par... 8 jours, vous voyez, ça fait en fait beaucoup, beaucoup de monde.
Et ouais, moi, c'est là, j'étais en train de feuilleter le programme. Je ne sais pas si on voit combien est-ce qu'il y a de spectacles sur la totalité du festival qui s'étend quand même sur, sur 9 jours.
Ah oui, il faut compter sans doute entre 40 et 50 spectacles.
Ouais, ouais, et puis il y en a vraiment plusieurs par jour, quoi. On peut vraiment y passer toute la semaine, toute la journée.
En saluant évidemment le travail énorme de Sandrine Bordier, qui a réussi à monter ce festival dans des conditions complexes, difficiles, parce qu'il n'y a pas que des facilités pour monter un festival. Il y a aussi beaucoup de gens qu'il faut convaincre de certaines choses. Et puis, c'est pas toujours, il n'y a pas une souplesse absolue. Hein, ce n'est pas le monde des bisounours. La vie n'est pas un monde de bisounours. Donc, il faut arriver à convaincre des gens.
La vie n'est pas un conte merveilleux, peut-être.
La vie n'est pas un conte merveilleux. C'est ça. Et pourtant, c'est... Mais il y a aussi des contes difficiles, hein. Il y a aussi des contes qui finissent mal. Mais là, pour l'instant, tout se finit bien. Pour Vassivière, tout continue bien en espérant que ça va continuer. Mais rien n'est certain, finalement. Rien n'est certain, parce qu'entre les politiques actuelles qui ne sont pas du tout en faveur de la culture, c'est assez complexe de faire vivre un festival. Alors, on y croit, on s'y attache. Et si ça existe, c'est encore beaucoup grâce à l'amitié des conteuses et des conteurs qui sont là, qui viennent, et notamment pour un anniversaire comme ça, pour 30 ans, de façon financièrement light, j'allais dire, amicale, beaucoup de bénévoles aussi qui sont là, et puis beaucoup de gens qui viennent par amitié pour Jean-Louis Bordier, Sandrine et les gens qui font le festival, quoi.
Et oui, parce que c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que c'est un festival qui est assez étendu. On a deux chapiteaux immenses sous lesquels il y a des spectacles toute la journée, il y a beaucoup de gens qui viennent, on a des lieux qui sont très beaux, qui sont décorés, etc. Et pourtant, tous les ans, les cartes sont rebattues et on se pose la question, est-ce qu'on va réussir cette année, etc.
Et oui, parce que les politiques culturelles réduisent les subventions, les conditions sont difficiles, même pour travailler autour du lac. Les questions se posent encore, donc on espère avoir de moins en moins de bâtons dans les roues et de plus en plus de possibilités de faire du spectacle, parce que c'est ça l'important, c'est de faire du spectacle vivant, de le proposer aux spectatrices, aux spectateurs, d'avoir des choses de qualité, parce que l'idée, ça a toujours été ça, pour Jean-Louis Bordier et pour Sandrine aussi, hein, de présenter des choses de grande qualité. Je prends l'exemple, par exemple, dimanche soir, Hassan Kassikouyaté, qui est un immense conteur, et qui est le directeur du Festival des Francophonies, qui est venu faire un spectacle ici, avec ses amis musiciens, qui sont des pointures immenses. Donc c'est vraiment, le festival porte le nom de Festival International et Interculturel. Mmh. Et ça, c'est très, le mot interculturel est très important, parce que ça veut dire que c'est un mélange des différentes cultures du monde entier, et puis sous différentes formes. Entre Dick Engard, qui était là aussi samedi soir, cet immense chanteur des années 70, qui n'a pas pris une ride, et qui est venu chanter Bruxelles et ses autres chansons-là. On a François Morel, par exemple, qui était là il y a 2 ans, d'autres, enfin, on pourrait en citer. Des célébrités, des gens moins célèbres ou des gens qui sont très célèbres dans leur pays, je pense au Canada notamment, enfin au Québec pour avec ces personnes. Marc Laberge qui était là et qui est là encore là, qui était ce grand conteur, qui un grand ami du festival, qui a monté un grand festival à Montréal. Bref, voilà, le monde entier se retrouve en fait à Vassivière. Pour ceux qui aiment le conte, des gens qui ont porté ce conte. Et le renouveau du conte aussi, parce que je pense à Yannick Jolin, tiens, qui va être là très bientôt. Yannick Jolin, qui est vraiment le conteur rock'n'roll qui, dans les années 80-90, redonne au conte un renouveau absolu avec Henri Gougo, avec tout cela. Bon, lui, il vient encore cette année, voilà, c'est formidable.
Et bah oui, et puis effectivement, comme tu le disais, il y a toutes ces pointures dans leur domaine qui viennent à Vassivière, mais c'est aussi un espace de créativité, c'est mais aussi un espace d'expérimentation. Il y a tous les ans des nouvelles personnes qui débutent dans le conte ou qui débutent pas dans le conte, mais qui débutent à Vassivière.
C'est l'idée, effectivement, aussi du festival. C'est que ce soit un endroit de jeunes pousses avec de jeunes conteuses, de jeunes conteurs qui sont là. Et quand je dis jeunes, c'est pas foncièrement très jeunes, mais Il peut y avoir voilà, des jeunes conteuses, des jeunes conteurs, mais aussi des gens qui se lancent dans le conte, qui sont en rupture un peu par rapport à leur profession. Là, on a vu Cécile hier, Pyrrhus, qui était instite avant et qui a décidé de faire autre chose, et qui avait un certain âge quand elle est partie. Bon, peut-être à 30-35 ans, elle a quitté le milieu de l'enseignement pour devenir conteuse. Elle a fait ses débuts ici, elle a eu une scène ouverte, elle a eu une présentation de spectacle, et puis maintenant elle tourne en professionnel. Donc c'est aussi ça, c'est aussi une pépinière, ce festival interculturel du conte de Vassivière. C'est laisser la place à celles et ceux qui ont envie de prendre la parole, et c'est vraiment possible, parce que dans tous les endroits, on compte ici. Hein, vous allez dans les buissons, dans les bosquets, dans les machins, sous les chapiteaux, ça tchatche de partout. Et donc, être repéré aussi, parce qu'il y a beaucoup de programmateurs qui viennent aussi, de professionnels.
Par la journée de professionnels.
Oui, par la journée professionnelle, et par l'échange aussi, tout simplement, parce que et on voit des spectacles, on entend des trucs, tiens, mais toi, t'es pas mal, ce que tu fais, où est-ce que je peux te voir, là, voilà. Je pense à Apollinaire, qui vient de Bruxelles, qui est un directeur de festival, qui vient un peu faire son marché. Les gens sont là aussi pour ça. On le sait pas foncièrement, mais voilà, donc c'est un brassage amical, humain, de professionnels et pas professionnels qui est formidable, vraiment. Pour ceux qui ont envie de raconter, de se faire remarquer, et puis pour les spectateurs de prendre du plaisir, voilà, avec tout, parce qu'il y a une générosité formidable ici.
Oui, et puis je pense aux endroits où du coup tous ces publics-là se rencontrent. Il y a la scène ouverte, par exemple, qui a lieu tous les soirs.
Oui.
Et justement, où les gens sont tirés au sort. Et dans l'eau, on a des gens dont c'est la première histoire racontée devant un public.
Je pense exactement, je me souviens. Alors, je présentais, moi, au tout début, les scènes ouvertes. Et je me souviens d'un petit personnage qui arrive, un jeune mec. Nicolas, très bien. En fait, Nicolas Bonneau, qui est maintenant une grande pointure du conte. Mais je me souviens sur l'île, le présenter dans sa scène ouverte, machin, il arrive. Et il nous a bluffé. Je pense à Gorky, qui arrive déguisé, en sorte de vieux juif, sortant des livres de Isaac Bezinger, qui, voilà, qu'en fait, sous son déguisement, était un jeune homme de 23-25 ans, là. Et qui, là, va conter cet après-midi en professionnel. Il fait le tour du monde maintenant, avec ses contes. Et il a, il a commencé là. Colette Minier, par exemple, qui est là cet après-midi. Colette, qui a débuté aussi à Vassivière. Donc, ouais, Vassivière, c'est une pépinière d'artistes. Et espérons que ça le reste longtemps.
Cette scène ouverte, du coup, tu disais qu'elle avait quel âge ? Ça fait combien de temps que ça a toujours fait partie du festival ?
Non, oui, pas toujours, mais elle s'est installée, je pense, dès la 4e ou 5e année. Ou à partir du moment où on s'est posé à un endroit, donc. Peut-être 7 ans après, quoi. Donc, je dirais peut-être 2002, dans ces eaux-là, peut-être un peu avant. Voilà, dans ces eaux-là. Scène ouverte sur l'île, où les gens avaient un moment pour s'exprimer. Ceux qui avaient envie de compter, ceux qui n'étaient pas professionnels, parce que ça touche surtout ceux qui ne sont pas professionnels. Prendre la parole, compter, avoir simplement 10 minutes, c'était pas longtemps, ça durait une heure, donc voilà. 10 minutes, moi j'étais là pour chronométrer, c'était super dur, parce que les gens étaient dans leur truc, mais je leur disais, vous avez 10 minutes, et puis certains... Mais c'était apprendre aussi le métier, parce que quand on a 10 minutes, quand on est professionnel, quand vous avez 10 minutes, vous n'en avez pas 10, vous n'en avez pas 11 ou 12. Donc c'était aussi une façon d'être en condition, de dire, voilà, en 10 minutes, vous devez avoir conquis l'auditoire, et basta. Alors c'était aussi apprendre le métier en faisant ça.
Alors, on a parlé de cette scène ouverte qui était là depuis longtemps. On a parlé de ce que le festival est et a été depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses, des choses qui sont arrivées là en cours de route récemment dans les dernières années ?
Y a eu effectivement un gros travail autour de la journée professionnelle, par exemple. Journée professionnelle, c'était comment faire pour que les spectacles de qualité qu'on avait pu voir soient vus par le plus grand nombre de producteurs et de programmateurs. Donc, elle avait été décidée là, de bloquer une journée entière avec des fragments de spectacle, une vingtaine, et c'était vraiment une journée réservée aux professionnels. Donc, on a fait ça pendant quelques années. Cette année, on a décidé de changer un peu les choses, de ne pas bloquer la journée, de la répartir un peu sur toute la semaine, et puis d'inviter aussi les programmateurs à venir sur plus de temps, et de voir plus de spectacles. Il va y avoir un spectacle donné, alors je ne sais plus quel c'est là, mais qui va être donné dans son intégralité, de façon comme ça à respecter aussi plus le travail de ces artistes qui conçoivent des spectacles qui durent une heure et quart. donc de pardonner simplement un fragment. Mais la place est importante, vraiment, le festival, un festival c'est ça aussi, hein, mais que vous soyez dans le cinéma à Cannes ou pour le festival de n'importe quel film ou autre, c'est qu'un festival, il fait le lien entre le public, les artistes, mais aussi les professionnels. Les artistes, ça a besoin de bouffer et ça doit tourner. Surtout dans le spectacle vivant, les musiciens, pareil. Donc il faut qu'à un moment, un festival doit être là aussi, non pas pour faire du fric sur le dos des artistes, mais donner une porte vers les programmateurs, c'est-à-dire ceux qui vont les faire tourner plus tard.
Être une passerelle, presque.
Exactement, c'est l'idée de ça. C'est l'idée de la passerelle, et puis c'est l'idée voilà, d'un tremplin et de la passerelle entre les programmateurs et puis eux-mêmes, les artistes, et le public, bien sûr.
Ben justement, toi, Emilia, ce festival, tu le connais depuis un petit moment.
Alors, j'avoue qu'en revoyant Jean-Michel ce matin, j'ai pris 3-4 rites de plus.
Je ne sais pas comment je dois le prendre.
pour moi, en fait. C'est vrai que moi, j'ai connu en fait, le festival sur l'île de Vassivière, avec de très belles nocturnes aussi, très conviviales autour de feux de bois et de fauteuils, comme aujourd'hui. Où chacun s'installait, il y avait un instrument de musique. Et je me posais la question tout à l'heure, à savoir que tu disais, Jean-Michel, que le CD que j'avais acheté à l'époque datait de 2012.
Oui.
Et moi, je venais déjà un petit peu avant. Donc, ça veut dire que je venais avant 2012.
D'accord. Mais le temps passe vite. Hein,
le temps passe très vite, mais on n'a pas changé.
Exactement.
Et on aime toujours les comptes. Donc, c'est un rendez-vous incontournable. Oui.
Et alors, du coup, est-ce qu'il y a un moment, toi, dans cette histoire du festival qui t'a marqué précis ? Donc, tu parlais de cet album. Est-ce qu'il y a une anecdote comme ça que tu as envie de raconter ?
Je dirais un mot, humanité, partage. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs rôles de conteuse, de stage, parce que c'est aussi des stages. Et ça, c'est important aussi de le mettre en avant. Souvent pendant le festival, il y a 4-5 conteurs qui proposent des stages aux débutants ou même aux professionnels qui nous permettent, qui permettent en tout cas aux conteurs qui veulent s'engager dans cette démarche des outils pour aborder ce métier. Une anecdote en particulier, j'ai eu l'occasion de rencontrer Henri Gougaud, ça a été une très belle rencontre. Voilà, c'est
qui nous a quitté d'ailleurs l'année dernière.
L'année dernière, tout à fait.
Immense conteur qui avait été aussi un auteur de chansons, notamment pour Juliette Gréco, Jean Ferrat, qui a écrit beaucoup de romans, et puis aussi de grands contes. C'est une référence absolue, Gougaud.
Tout à fait. Beaucoup s'y réfèrent en fait à ses contes, même après son départ. C'est vrai que et on a la chance d'y avoir une librairie un peu qui accompagne le festival depuis plusieurs années et qui offre de jolis livres sur tous ces conteurs, entre autres.
La particularité des conteurs, c'est qu'on peut dire que ce sont des artistes absolument complets, parce que ce sont des hommes et des femmes de scène, c'est-à-dire que tous ceux qui sont passés là toute cette semaine sont vraiment des gens de scène, sont des acteurs, mais c'est autre chose encore. Parce qu'en plus, ils écrivent leurs contes, bien souvent. Ce sont des artistes qui écrivent des contes. Henri Gougaud était sur scène. C'était pas un grand homme de scène, mais malgré tout, il tenait la scène. Et quand je dis ça, c'est pas bien, parce qu'il a été chanteur aussi dans son jeune temps. Gougaud, mais était là, habillé en noir, sur une chaise, avec une présence extraordinaire. D'autres sont plus mobiles. Je pense à Pepito Matteo, qui lui est un clown, fantaisiste, magnifique, qui avec le verbe, la parole et le geste aussi nous entraîne. Il sera là ce soir sous le grand chapiteau, dans des endroits sublimes. Donc, ils sont auteurs, gens de scène, et c'est absolument formidable, quoi, d'avoir des artistes aussi complets.
Musique.
Et musique aussi, bien évidemment. Parce que le travail qu'ont fait Armel et Pepo Odigam hier soir, c'était prodigieux, franchement. Un travail vraiment de précision. Ils étaient sur leur barge, sur l'eau, la lune, comme ça, qui éclairait la barge sur le lac. Et nous, sur la plage, en train d'écouter ces histoires, au cordeau, avec la voix d'Armel, qui était comme une sorte de poète grec, comme on en voyait dans l'Antiquité, avec un rythme. Et puis, Pepo qui l'accompagnait avec des instruments vraiment hors normes. Mais c'était un travail magnifique, vraiment, sous la lune, hier. C'était très, très beau. Bravo à eux, quoi. Très beau spectacle. Il y en aura plein d'autres encore. Il faut venir.
Eh ben, est-ce que toi, tu as eu l'occasion de te mettre au compte en ces 30 ans de...
Alors, moi, j'y ai toujours pensé. Mmh. Et je ne l'ai jamais fait, parce que moi, mon travail, c'est plus la chanson, finalement. Mmh. Et il y a un travail de proximité, mais c'est difficile, le conte. Soit il faut vraiment s'approprier un répertoire, soit se lancer dans l'écriture. C'est comme un écrivain qui se lance dans la scène. Et ça, ce n'est pas si facile. Et puis, le conte, c'est aller chercher très loin des histoires, ou alors se mettre à nu, beaucoup. On peut le faire en chanson, mais il y a un habillage un peu différent. C'est un travail très à part, le conte. C'est un travail très à part.
Une solitude.
Oui, sans doute une solitude.
À la création.
C'est vrai, tu as raison, parce que les conteurs sont souvent seuls sur scène, voilà, face au public. Il y a quelque chose de très particulier dans ce travail. C'est un travail particulier. Plus solitaire, effectivement, que le monde de la chanson. On est avec les musiciens, c'est autre chose. J'y ai toujours pensé, j'ai jamais mis pied à l'étrier, on sait jamais.
Peut-être pour les 40
voir.
Ans.
Va savoir, après tout, bonne idée.
Alors là derrière, je ne suis pas sûre que les micros aillent aussi loin que ça, mais on entend des applaudissements. Il y a Kamel Guénoun qui est en train de faire ses contes au comptoir, oui. Si je ne dis pas de bêtises.
Kamel est un très vieil ami du festival qui adore ça, justement l'improvisation, raconter des contes. Il vit dans une caravane, maintenant il circule le monde comme ça, et c'est la liberté de la parole, l'amitié, c'est Kamel.
Voilà, il était à notre micro hier et il racontait que lui, ce qu'il aimait bien, c'était quand il était face à des conteurs, des conteuses qui avaient un petit peu de bouteille, quoi, d'essayer de regarder finalement ce que c'est la colonne vertébrale de leur travail et de se rendre compte que souvent il y a des sujets comme ça qui traversent les gens et qui traversent tout leur travail. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu retrouves dans ton travail de musique ou est-ce que c'est quelque chose que tu
trouves plus proche du conte ? Je pense que dans chaque... Dans chaque travail d'artiste, on retrouve, en fait, il n'y a peut-être qu'une seule chanson pour un chanteur, ou qu'un seul conte pour un conteur, et puis après, c'est ce que disait Barbara. Barbara disait, on fait une seule chanson dans sa vie, puis après, on tourne toujours autour du même thème. Et peut-être qu'elle a raison, effectivement, parce que oui, c'est ça, on a l'idée d'un thème, et puis on travaille autour dessus, on dévie un peu, mais l'idée de colonne vertébrale est très juste. Et cette idée comme ça, et puis après, des branches, ou un arbre, on a un tronc, comme ça, fixe, et puis les branches qui naissent comme ça, mais le tronc est toujours là.
Ou dans le style ou dans le. Il est fort, Kamel, quand même.
Il est fort, ce Kamel. Même, oui, c'est un poète.
Et alors, toi, ta seule chanson, tu penses que ce serait quoi ta colonne vertébrale.
C'est difficile. On peut parler peut-être d'un thème plus que d'une chanson. Mais. Si je dis l'enfance, peut-être. Et autour de l'enfance, on peut mettre beaucoup de choses. On peut mettre le temps qui passe, on peut mettre la mélancolie, on peut mettre la vieillesse aussi, pourquoi pas. On y met l'amitié, on y met le regret, on y met la joie. Donc il y a beaucoup de choses. Donc, j'aime bien le mot enfance. Il y a l'idée du début aussi.
Ça tombe bien puisque le deuxième morceau que tu nous as confié s'appelle Le ballon et la poupée. Je pense qu'on y est dans l'enfance.
Oui, mais qui n'est pas un texte de moi, qui est un texte de Simon Gauthier, qui était un conteur québécois qui a fait vraiment les grandes heures de certains festivals à Vassivière. Il était venu la première fois avec une palanquée de conteurs québécois. Il y avait François Vallée notamment, il y avait donc Simon Gauthier qui était là, il y avait celui qui est devenu une grande star maintenant, comment s'appelle-t-il, je ne sais plus, qui chante avec Céline Dion maintenant, je vous dirai le nom tout à l'heure, c'est l'émotion. Et donc pour le disque là, et pour le spectacle Chanson de Conteur, j'avais demandé à Simon d'écrire un texte. Et Simon était quelqu'un qui était tonitruant, joyeux, un peu comme lui, comme ça, qui raconte des histoires de marins, de navires, en buvant des bières, qui chantait, etc. Il nous a quittés il y a maintenant 5 ans, Simon. Et vraiment, c'était un garçon lumineux. Et le texte qu'il a choisi était le texte le plus émouvant des 18 que j'ai reçu. Le plus intime et le plus... Pas le plus profond, mais le plus bouleversant, qui parlait de guerre, qui parlait d'enfance aussi. Et donc, j'avais essayé de faire une musique adaptée. J'avais été très ému de recevoir ce texte-là. Le public avait été ému, je crois aussi. Ça se ressentait dans le spectacle. Et puis, je suis ému de le faire écouter aujourd'hui et de penser à Simon, à qui on envoie, bien sûr, à travers les ondes, toutes nos pensées d'amitié.
Eh ben, on écoute tout de suite. Donc, ça s'appelle Le ballon et la poupée.
Je pousse les nuages, le soleil des ruelles, fumé au loin. Des militaires ont débarqué. Nous incarnions la dangereuse révolution. J'avais un beau ballon, une petite sœur à mes côtés. Dans sa main une poupée, l'espoir, le rêve. La liberté, l'espoir, le rêve, la liberté. À coups de chars blindés, ils ont lavé tous les décors. Sur nos chevilles d'acier, debout, armés d'un beau ballon. Travailleurs, certes, de la mort, nous jettent du haut d'une charrette, tombent dans la boue nos corps inertes, indignés pour l'éternité. Résonne une onde sur le monde.
Retour sur Radio Vassivière. On vient d'écouter donc le ballon et la poupée avec les applaudissements des spectateurs et des spectatrices.
Merci Simon. C'était en 2012, effectivement, sous le grand chapiteau pour ce spectacle, Chanson de conteur. C'était pour les 18 ans donc, du festival, ce texte de Simon Gauthier.
Et alors, est-ce qu'en 18 ans, tu t'imaginais qu'il y aurait 12 ans de plus
Oui, je pense que oui, je pense que le festival est définitivement ancré et que nous serons encore là dans 30 ans ou dans 50 ans. Est-ce que Didier sera la technique peut-être ? Bien sûr.
En tout cas, on l'invitera.
Moi, je suis très conservateur, je suis pour que les choses ne changent pas, que nous ne prenions aucun cheveu blanc et que tout soit à sa place, comme ça, définitivement.
Alors, du coup, tu viens peut-être de répondre déjà à ma question, mais qu'est-ce qu'on souhaite du coup aux 30 prochaines années de ce festival ? Qu'est-ce que tu t'en imagines, toi ? Qu'est-ce que tu aimerais qui change.
Il faut que les choses changent toujours. On se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, de toute manière. Ça veut dire qu'il faut toujours changer, se renouveler, et les choses se font comme ça naturellement, parce que les histoires qui arrivent sont toujours nouvelles, il y a toujours de nouvelles têtes qui arrivent, de nouvelles conteuses, de nouveaux conteurs qui sont là avec de nouvelles histoires. Donc ça, c'est important aussi de suivre le courant. Donc il faut qu'un festival ne se coupe pas aussi de la jeunesse, surtout. et se coupe pas du des gens et culturels. Oui. Donc il faut faire venir, je pense, encore plus de jeunes et encore plus de façons de s'exprimer. Encore plus peut-être de slam, encore plus pourquoi pas de, enfin, de nouvelles façons de s'exprimer. Ça, c'est important. Et peut-être qu'on peut aller dans ces axes-là. Techniquement, pourquoi pas aussi, tout en gardant la tradition du conte, et garder l'international, ça c'est très important, et faire parler ceux qui n'ont pas suffisamment la parole, qui ont des choses à dire. Je suis sûr que dans certains pays d'Afrique, il y a des gens qui ont des choses très importantes à dire d'après ce qu'ils vivent. Je suis sûr qu'il y a des conteurs palestiniens qui pourraient prendre la parole et dire des choses très importantes. Il y aura des filles et des garçons qui viendront raconter des histoires, et ça sera très important de parler des vies à travers justement les histoires, pas que celles de Grimm ou de Perrault ou de l'Iliade, et pourquoi pas, il les faut aussi, c'est notre fond de toute manière, commun à tous et à toutes. Mais il faut effectivement ça, que chacune et chacun qui ont envie de parler puisse le faire à travers les histoires qu'il porte en lui ou en elle. Donc ça, c'est très important. Voilà. Donc il faut que le festival continue sur cet axe-là. Et puis il faut bien sûr que les gens qui travaillent autour de Vassivière et que les gens qui habitent Vassivière accueillent ce festival comme une chance et non pas comme une contrainte. Et ça, c'est très important de comprendre que la culture, elle est essentielle à toutes et à tous. Et voilà, il faut faire en sorte que la chance qu'on a, c'est de considérer ce qu'on ne connaît pas comme une chance et non pas comme une crainte. Ne jamais avoir peur de ce qu'on ne connaît pas, mais l'accueillir toujours comme une chance.
Eh ben, c'est des très beaux souhaits pour ces 30 prochaines années de Paroles de Conteur. Peut-être même on pourra réussir à réaliser ça avant.
Oui.
Ça serait pas mal.
Bien sûr.
Et donc, pour partir, pour terminer cette petite passage sur les 30 ans, on va peut-être se rappeler les rendez-vous de ce soir pour célébrer correctement ces 30 ans.
Vas-y, puis, Justine, t'as le programme Emilia, en face de toi. Ouais, c'est Emilia aussi qui a le programme.
Et puis avec Emilia, vous aviez un projet d'aller voir le public
sous le chapiteau. Tu vas voir Emilia, on va y aller. Et oui, ce soir, il y a une grande soirée, 22h30, après Pépito Matteo, qui est un conteur prodigieux. On se retrouve sous le grand chapiteau. On va être trois à faire les présentateurs, Armel, Odigam, Kamel et moi, on va avoir chacun trois sets, et puis dans ces sets, on va faire intervenir des gens qui ont envie de... Moi, j'ai envie que certains racontent leurs souvenirs, voilà, chacun aura 2-3 minutes pour en parler, certains auront envie de raconter des histoires, mais c'est pas le but, simplement, c'est peut-être venir chanter, raconter son festival, un petit souvenir, un truc joyeux, sympa, festif, on boit une bière et on se raconte nos vies, et on se raconte un souvenir, et même on se dit ce qu'on fera plus tard, et ça va être super, ça va être une façon de fêter les 30 ans, c'est un anniversaire, on fait la fête, quoi, c'est ça.
Rendez-vous donc à 22h30 à Ophel pour célébrer correctement ce bel anniversaire. Et bah écoutez, est-ce que vous voulez aller commencer à,
oui,
à aller chercher,
oui,
des gens,
oui.
Vous changez de micro.
On y va, on va leur faire chanter Joyeux anniversaire. Ils ne le savent pas encore.
Et oui.
Ils ne le savent pas. Elliot, viens avec nous, tu vas, on va chanter Joyeux anniversaire. On va faire chanter Joyeux anniversaire. On va un petit peu les faire digérer comme ça. Et oui, on est sur là à Ophel, sur ce festival du conte, 30e festival du conte, 30e festival interculturel du conte. On se présente, Emilia, Jean-Michel, Elliot, et quand on est à table et quand on est au dessert, mesdames et messieurs, vous qui êtes là avec vos assiettes, frites fondues, brun, c'est parfait. Est-ce que vous êtes prêts pour... Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts à chanter avec nous pour les 30 ans du festival en direct à la radio ? Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire au Festival interculturel du conte. Merci beaucoup. Tiens, je vais faire parler un petit peu. Qu'est-ce que tu as ? Est-ce que tu as vu, toi ? Comment tu t'appelles ?
Margot.
Margot. Qu'est-ce que tu aimes comme histoire ? Qu'est-ce que tu aimes comme conte ? Est-ce que tu écoutes des contes ? Est-ce que tu en lis ? Est-ce qu'il y a un conte que tu aimes bien ? Tu sais pas, tu réfléchis. Est-ce que tu aimes les trois ours ? Tu connais Boucle d'or et les trois ours, tu connais ça? Ouais. Est-ce que tu en lis des contes, toi?
Un peu.
Un peu? D'accord. À l'école, t'en vois? Non, pas encore. T'es en quelle classe, toi?
CM2.
CM2? D'accord. Eh ben, en sixième, tu vas en avoir plein. Tu vas voir. Bon, en tout cas, bon festival. T'es de quelle région?
De Bordeaux.
De Bordeaux? Bon, merci les Bordelais d'être avec nous. Super. Eh ben, bon festival, en tout cas. Et puis, on va demander aux grands aussi, tiens. On va aller par là, on va demander à ceux qui sont par là, qui sont en train de manger du melon, là, sous les toiles de temps du festival.
Les 30 ans, Jonathan.
Les 30 ans, il est né avec le festival, Jonathan. Bonjour, Jonathan. Bon.
Bonjour à tous. Eh
ben, le jour de l'ouverture, bah, super, bon, voilà. Eh ben, voilà, ça tombe bien. Ah, est-ce que tu connaissais le festival du conte avant de venir fêter tes 30 ans ici?
C'était une découverte pour moi. Ouais.
D'accord. Est-ce que tu as vu des choses?
Plein de choses. Ça... au soir.
Ah ouais, t'as vu quoi alors? Qu'est-ce qui t'a marqué?
Eh ben, ça a commencé avec le concert de Dix.
Ouais.
Après, plein de contes qui mêlaient à la fois la musique, des histoires qui font rêver. Et,
ouais.
Et c'est surtout de pouvoir passer ces moments en famille. De pouvoir se retrouver, ça remonte à 15 ans peut-être la dernière fois.
D'accord, bon bah c'est formidable.
Voilà. Donc incroyable.
Très bien, bon bah c'est génial. Bien. Alors bon anniversaire à toi.
Merci beaucoup.
Et on va te faire un cadeau, on va trouver un truc, je suis sûr, on va trouver quelque chose à la radio là. Bah ouais, on va lui faire un cadeau pour ses 30 ans. Joyeux anniversaire à toi.
Merci à tous.
Bon bah c'est super, très bien. Eh ben, écoutez, joyeux festival à toutes et à tous. Profitez-en bien, le festival, c'est jusqu'à vendredi soir, samedi même. Faites bien la fête, allez raconter des histoires. On va peut-être aller se rapprocher là-bas du studio. Merci beaucoup, bon appétit. Hein. Profitez, vous savez, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent, on peut manger sur place, on peut boire des bières, et pas que des bières, il y a aussi d'autres choses. Il y a une buvette qui est là en permanence, un resto, on y mange très bien, il y a des spectacles à voir du matin au soir, bref, c'est vraiment très bien. Emilia, tu l'as goûté l'IPA?
Comment?
L'IPA, tu l'as goûté?
Non.
Elia, tu l'as goûté, toi, l'IPA, c'est pas
évidemment
possible.
Pas encore.
Pas encore, mais il faut qu'on
dire,
en...
oui,
bah,
faut
on va aller en boire une, évidemment.
Voilà.
consommer avec modération, je crois que quand on parle de ça à la radio, il faut préciser ça.
Oui, tout à fait, tout
oui,
à fait.
C'est ça, tu vois, on est dans
faut être
clous,
prudent.
Hein. Faut être prudent, exactement.
Eh ben, merci beaucoup, Jean-Michel, Elliot et Emilia, pour ce travail de terrain, voilà, ce reportage de terrain. Moi, nous, de notre côté, on va faire du reportage plan-plan, de table, puisque avec nous, il y a François. Alors François qui est en train de nettoyer ses lunettes et qui s'apprête à nous rejoindre. L'avantage, tu sais, c'est que pour la radio, on a pas besoin de l'image. Mais bon, c'est bien si quand même on peut se regarder. Alors bonjour François, bienvenue autour de notre
bonjour plateau. À toutes et à tous.
Alors François, on est venu te voir parce que c'est Corinne qu'on a écouté hier qui nous a recommandé de te parler puisque tu fais partie donc enfin tu fais partie, tu as créé le DAHU. Alors ça commence par un
le DAHU téméraire.
Téméraire, voilà, j'étais sur trépidant mais c'était pas le bon adjectif, je suis désolée, je suis pas très bonne en adjectif.
Effectivement, j'étais dans les membres fondateurs, nous étions 6. Je suis le plus jeune. Oui. C'était une toute petite association qui n'avait pas beaucoup d'ambition. On voulait faire ce que le statut d'intermittent ne nous permettait pas de faire, comme des petites formations, puis des actions. Par exemple, dans l'Aude, à l'époque, les bibliothèques ne faisaient pas passer de compteurs. Alors, on a trouvé 6 copains compteurs, et 6 mois de suite, on a mis un compteur dans 6 bibliothèques qui étaient d'accord. Et au bout de 6 mois, évidemment, les premiers mois, il y avait 10 personnes. À la fin, il y en avait 30. Et quand ça s'est terminé, on a donné une liste d'adresses de compteurs aux bibliothécaires. On leur a dit, maintenant, vous voyez que ça marche, à vous de faire. Et à la bibliothèque de Castelnaudary, qui est une médiathèque magnifique maintenant, il y a toujours des compteurs qui passent. Ça, c'était en 2002 ou 2003.
Alors, quand on parlait tout à l'heure, tu nous parlais de la double activité du DAHU téméraire. Tu nous disais qu'il y avait une activité de formation et cette activité de programmation, c'est ça?
Voilà.
Donc ça a toujours fait partie de l'identité du DAHU téméraire. C'est pas quelque chose qui est venu se rajouter avec le temps, se
Alors,
construire.
Ça s'est développé avec le temps. Au début, on faisait des petits stages, puis surtout à la demande d'une association de compteurs qui nous demandait de venir les faire travailler. Et puis en 2012, on a eu une demande d'un groupe de compteurs qui disait, mais on n'a pas de formation fondamentale, de base, de vraie formation. On fait un stage ici et là, c'est un peu aléatoire. Et donc, on a travaillé 2 ans à imaginer ce que ça serait. Et l'idée, c'était que ce groupe de compteurs, après, se démerder pour le mettre en place.
Okay.
Et puis, entre-temps, ils ont explosé en volant. On n'avait pas fait deux ans de boulot pour rien, donc on a fait la formation nous-mêmes. Et depuis, depuis 2014, première année, on fait la formation tous les ans.
Alors, comment on devient compteur, du coup ? Qu'est-ce que c'est, cette formation ? Elle dure combien de temps ? Qu'est-ce qu'on y apprend ?
Cette formation-là dure 10 mois. C'est une semaine par mois, avec beaucoup de boulot à faire à la maison. Il y a 2 grands volets. Un premier volet, c'est tout ce qui est la composition d'un récit. Donc, faire un schéma narratif, faire une analyse symbolique, une analyse de séquence, enfin bref. Monter une histoire pour pouvoir la raconter. La deuxième partie, c'est 3 semaines sur la littérature orale, savoir ce que c'est un mythe, une légende, un épopée, un conte étiologique, etc. Voilà. Ça, c'est pour former des professionnels. Et à côté de ça, on a aussi plein de petits stages d'initiation au conte, des ateliers pratiques, etc. Voilà.
Et alors, on va rester sur cette formation initiale déjà, et puis on parlera du reste après. Vous accueillez combien de personnes ?
Sur la formation, on en accueille 6, entre 6 et 8. Mais après, tous les ans, on forme une 40aine de personnes, quoi, dans les différents ateliers et tout. On a entre 40 et 50 stagiaires chaque année.
Donc il y a des gens qui se rapprochent du compte tous les ans grâce à vous. Ces personnes-là, là, qui viennent faire cette première formation, c'est des gens qui n'ont jamais compté, c'est des gens qui ont un petit peu compté. C'est quoi les profils
en général ? Sur la formation professionnelle, on ne prend pas des débutants.
Okay.
On prend des gens qui ont soit une expérience du compte, soit une expérience de la scène. On a des musiciens, des circassiens, voilà. Par contre, sur les stages d'initiation, là, tout le monde a le droit de venir. On a des amateurs, des pros, tout.
Alors, sur ces formations professionnelles, c'est quoi les domaines de formation qu'est-ce que vous venez, sur quoi vous intervenez, quoi ?
Voilà, c'est compliqué. Je vais pas vous faire tout le programme parce
que non, mais dans l'idée, les grandes lignes, quoi, la narration, le jeu,
les grandes lignes, c'est deux grands trucs. Alors, on a au début, quand on a fait le programme, on arrivait à 3 ans de formation. C'était pas possible. Wow. Donc on a enlevé ce qu'on peut apprendre ailleurs. Par exemple, un conteur a besoin de travailler sa voix. Il y a beaucoup d'endroits où on peut le faire, donc ça, on le fait pas. On a centré sur ce qu'était le cœur de l'art du conte. Dans l'art du conte, vous avez conté un conte rigolo, faire rire les gens. Ça, il y a plein d'endroits où on peut apprendre à le faire. Par contre, il y a un domaine, c'est le conte merveilleux, faire rêver les gens, les endormir et qu'ils partent dans leur imaginaire. Ça, il n'y a pas d'endroit où on l'enseigne. Donc, on a centré la formation surtout là-dessus.
D'accord. Voilà. Et alors, il y a une question importante à laquelle on n'a pas répondu, c'est où le Deuil Téméraire ?
Le Deuil Téméraire, c'est à côté de Toulouse, dans un tout petit village qui s'appelle Saint-Julia.
D'accord. Et donc, sur place, vous accueillez du coup ces stagiaires. Est-ce que c'est un lieu de vie aussi ? Est-ce que c'est un lieu de spectacle ? Ou est-ce que c'est purement un lieu de formation et de programmation ?
Alors, c'est juste un lieu administratif.
Okay,
il n'y a même pas de quoi faire une formation dedans. On a un petit bureau qui est grand comme cette tente.
Oh.
Et donc, toutes nos formations, on loue des lieux où on paye la salle. Et on trouve toujours des lieux avec hébergement. Puisqu'on a des stagiaires qui viennent de toute la France, de Suisse, on en a eu de Belgique.
Toujours voilà. Du côté de Toulouse ou vous bougez dans la France
Alors, on a, par exemple, depuis 2 ans, on a formé une de nos anciennes stagiaires à faire des initiations au compte. Et là, cette année, elle en a fait un premier stage. Et en 2026, elle va faire un stage en Dordogne. Parce qu'elle, elle habite plutôt vers Bordeaux. Donc, elle va le faire chez elle.
Et alors ça c'était pour l'activité de formation. On a commencé par parler de l'activité de programmation. Je suppose que vous ne vous êtes pas arrêté après avoir convaincu 6 médiathèques dans le coin vers l'Occitanie. Qu'est-ce que c'est ? Comment on programme des compteurs, des compteuses ? Qu'est-ce que c'est ce boulot-là ?
Ah ça, faut demander ça à Jean-Louis ou à Sandrine.
Ça marche.
Hein, ils ont programmé beaucoup plus de compteurs que moi. Moi, j'en ai programmé parce qu'on a fait pas mal de temps des soirées comptes à Toulouse avec des compteurs de toute la France. Par contre, ce qu'on fait, nous, c'est de la production. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les gens qu'on formait au compte, pour devenir intermittent, c'est compliqué. Parce que quand vous avez que quelques dates dans l'année, que vous allez rentrer 3000 euros, un producteur qui va prendre 10%, ça lui fait 300 euros. C'est même pas le prix pour faire un dossier qui se tient. Donc, on leur a dit, voilà, si vous faites vos premiers spectacles, à condition qu'ils soient vendus au moins 350 euros, ce qui est un strict minimum pour qu'un compteur puisse vivre, on vous produit votre spectacle. C'est-à-dire, on fait le contrat de cession, on fait la facture et on fait le cachet de l'artiste. Voilà.
D'accord. Et alors, tu nous as proposé, au moment où on a parlé de venir et de t'accueillir au micro, de nous raconter une histoire.
Ah ouais ? Tiens, est-ce je peux vous raconter l'histoire d'un conteur, justement.
Ah bah,
c'est
ça.
C'est un conte africain.
Très bien.
Ça se passait il y a très longtemps, où le monde était bien différent. Et un jour, dans un petit village, il y a un conteur qui arrive. C'était un grand conteur, très connu. Donc aussitôt, on met une maison à sa disposition. On disait une jeune femme pour le servir. Et pendant 3 semaines, il vit là comme un coq en pâte, nourri, logé. Au bout de 3 semaines, il se sent prêt. Il s'installe sous l'arbre à palabre et tout le village se réunit. Et quand tout le village est là, le grand conteur demande « Quel conte souhaitez-vous entendre ce soir ?» Je vous l'ai dit, c'était il y a longtemps, c'était très différent. On ne cherchait pas à avoir de la nouveauté. Tout le monde racontait les mêmes histoires, tout le monde les connaissait, on les entendait de sa naissance jusqu'à sa mort. Et là, au premier rang, il y a un jeune homme qui dit « Ah moi, j'aimerais écouter l'histoire de la jeune fille à la rose. Ma mère l'a racontée, elle est si belle. » Ça tombe pile poil, c'est une histoire favorite du grand conteur. Alors il prend son luth, il improvise et il se met à conter. Et c'est l'émerveillement, tout le monde l'écoute. Et ça dure jusqu'au milieu de la nuit. Et puis il achève, il improvise sur son luth. Et le jeune homme au premier rang a la banane jusqu'aux oreilles. Il s'approche, il dit « Waouh, comme c'était beau! C'était presque aussi beau que quand ma mère racontait. » Presque. Le grand conteur est vexé. Il se retire dans sa maison. Pendant 3 semaines, on ne le voit pas. Il médite, il réfléchit, il travaille. Et puis au bout de 3 semaines, il revient, il s'installe sous l'arbre à palabre. Tout le monde se réunit. Quelle histoire voulez-vous entendre? Et le même jeune homme, au premier rang, moi j'écouterais bien l'histoire de la jeune femme à la rose. Ma mère l'a racontée, elle est si belle. Bon, je ne vous cacherai pas que c'est surtout ça qu'il a travaillé pendant 3 semaines. Se sentant prêt, il prend son luth, il improvise sur 3 modes différents et se met à compter. Et là, waouh, même le vent s'arrête de souffler pour l'écouter. Et ça dure jusqu'au-là du milieu de la nuit. Et puis il achève en improvisant sur son luth. Et le jeune homme se lève, enthousiasmé. Oh, c'était presque, presque! Le grand conteur est furieux. Il prend ses quelques affaires, il quitte le village. Il monte dans la montagne, il s'installe dans une grotte et pendant 3 semaines, il médite. Il boit l'eau des ruisseaux, il mange les racines qu'il trouve. Au bout de 3 semaines, il revient au village. Quand il arrive, on dirait que ses pieds ne touchent pas le sol. Il s'installe. Tout le monde se réunit. Quelle histoire voulez-vous entendre? Et le même jeune homme au premier rang, moi j'écouterais bien l'histoire de la jeune femme à la rose. Ma mère l'a raconté, elle est si belle. Et l'homme, le conteur, improvise sur son luth, sur 5 modes différents. Et il se met à compter. Et le vent s'arrête. Les oiseaux se taisent. La lune s'immobilise dans le ciel. Et ça dure jusqu'au petit matin. Et quand le matin arrive, il improvise à nouveau sur 5 modes différents. Et le jeune homme... Le jeune homme, en fait, au bout de 5 minutes, il s'est endormi. Il a dormi comme une souche toute la nuit. Et au dernier accent du luth, il se réveille. Il fait un grand sourire, il s'approche, il dit « Waouh, c'était encore mieux que quand ma mère racontait !» Moralité, si vous êtes conteur, que vous endormez votre public, c'est peut-être, je dis bien peut-être, que vous êtes devenu un grand conteur. Ça a l'air d'une blague, cette histoire, mais vous avez sans doute eu l'occasion d'entendre un conteur où tout d'un coup, vous avez oublié où vous êtes. Vous oubliez le conteur sur scène, vous oubliez tout, vous êtes parti dans un rêve merveilleux. Eh bien, je trouve que la puissance du conte, c'est quand on arrive là, que les gens s'endorment symboliquement, c'est-à-dire qu'ils sont dans un rêve éveillé, dans un autre monde, et qu'ils font un voyage merveilleux.
Toi, ça fait longtemps que t'es conteur, avant de créer le DAU Téméraire, je suppose ?
Oh ben, j'ai découvert le conte modestement en 1984. Vous étiez pas né, hein ? Ben ouais, voilà. Enfin, pas tous.
Si, si, dit voilà. Didier.
En tout cas, toi, t'étais pas né, je pense.
Non, mais Radio Vassivière naissait.
Ah, voilà, on est...
Moi, j'ai fait
ah, ben
36.
Ouais. Ah ouais. Voilà, donc depuis 84, je découvre le conte et ce qui est extraordinaire, au bout de, ça fait combien de temps, 40 ans et un peu, j'ai toujours l'impression d'apprendre. Mmh. Souvent quand je fais un stage d'initiation, je dis aux jeunes gens qui viennent, vous avez raison de vouloir être un conteur parce que devenir conteur, ça va vite. Mmh. Dans le métier, on dit qu'un conte, il faut du temps. Quelqu'un invente une histoire, peut-être elle va être reprise, racontée. Et si elle est racontée pendant au moins 3000 ans, ça va peut-être devenir un conte. Mmh. Alors que pour faire un conteur, 1000 ans, ça suffit largement, ça va beaucoup plus vite. Donc je suis un débutant.
Très bien. Un débutant, et ben écoute, on reviendra vers toi quand tu auras les 1000 ans d'expérience.
Voilà, dans 1000 ans, là, je pourrais vous parler du conte en connaissance de cause.
Alors toi, du coup, tu as un stand sur le marché, sur le village associatif de Paroles de Conteur, c'est ça ? Tu es là-haut ?
Oui, parce que ça fait 25 ans qu'on existe, donc on fête notre 25e anniversaire.
Joyeux
anniversaire. On est plus jeune que le festival. Et du coup... On s'est aperçu qu'en France, beaucoup de gens dans l'univers du conte nous connaissaient. Ils ont entendu parler du DAU, mais nous, on ne les connaît pas. Alors on s'est dit, bah, à Vassivière, comme il y a beaucoup, beaucoup de monde qui passe, c'est quand même un des plus beaux festivals de France, hein, faut dire ce qui est. On est venu là, on s'est dit, on va rencontrer les gens qu'on ne connaît pas. Et effectivement, on en a rencontré quelques-uns, donc c'est super, quoi. Et puis on s'est aperçu que là, aujourd'hui, sur le festival... Il y a plus de 10 stagiaires qu'on a formés qui sont maintenant conteuses ou conteurs ou qui sont toujours en formation. Alors, ça fait drôle, quoi.
Bah oui.
Nous, on les voit individuellement, comme ça. On ne se rend pas compte de ce que ça fait. Hein. 12 ans de stage, et petit à petit, bah, ouais, c'est beau, quoi.
Une petite armée de conteurs et de conteuses.
Ouais.
Pour raconter plein d'histoires.
Ben ouais. Et puis, vous avez dû en entendre. Hein. Il y en a une qui est très prometteuse, c'est Chiara.
Okay.
Et qui, bon, je ne sais pas, elle va peut-être passer en scène ouverte ou quelque chose. Mais vraiment, c'est... Bon, moi, elle me sidère.
Ah, je crois qu'elle ira loin. À notre plateau, alors.
Peut-être.
Ce serait pas mal.
Et je pense qu'un jour, elle sera programmée ici, parce que vraiment, elle est bien.
Okay. Voilà.
Puis on en a d'autres, celle qui était tout à l'heure à chanter là, les Perrocontes. Corinne, c'est une de nos anciennes stagiaires aussi. Et c'est un plaisir de la voir conter.
Ben oui.
Voilà, puis il y a Tom. Tom, c'est très intéressant. C'est un gars, avant de faire la formation conte, il était danseur de hip-hop. Et maintenant, il a monté un spectacle où il danse et il conte en même temps. Moi, si je remue, je fais 3 pas en courant, j'ai plus de souffle, je ne peux pas parler. Lui, il arrive à danser et à compter en même temps. C'est prodigieux. C'est un magnifique, ce spectacle.
Mais c'est ce qu'on disait avec Jean-Michel tout à l'heure, que les conteurs sont des artistes multifacettes et qui souvent maîtrisent beaucoup, beaucoup de compétences différentes.
Ouais. Et on les encourage souvent. On a des circassiens, on a des musiciens qui viennent faire la formation, qui veulent... changer de métier ou... Et on leur dit, non, continue, fais les deux. Fais quelque chose qui va nouer les deux. Et c'est formidable.
Alors, 25 ans du DAU Téméraire. Tout à l'heure, justement, on se posait la question de à quoi vont ressembler les 30 prochaines années de Paroles de Conteur au bout de 30 ans. Alors, à quoi vont ressembler les 25 prochaines années du DAU Téméraire après ces 25 premières ?
Alors ça, je peux pas dire. Depuis 25 ans, je suis quand même un peu au centre. Hein. J'ai beaucoup organisé, géré. Et là, vu mon grand âge, j'ai décidé de passer la main depuis l'an dernier. Donc, on a embauché Jessica, qui est venue vous parler déjà. Et puis, on cherche quelqu'un d'autre qui soit très pointu sur la diffusion. Et après, je vais laisser les gens se débrouiller. On a créé une assemblée générale, enfin un groupe, un collège, voilà, de gens beaucoup plus jeunes qui vont prendre la relève. Et l'idée, c'est que d'ici 2 ans, c'est eux qui vont se débrouiller. Donc, qu'est-ce que ça va devenir 30 ans ? J'en sais rien parce que ce n'est pas moi qui vais le construire ces 30 prochaines années.
Ok, donc a priori plein de bonnes choses, probablement plein de nouvelles idées, de découvertes.
Une première idée, c'est qu'il semble avoir décidé de revenir à Vassivière tous les ans et pas que tous les 25 ans. Mais on était déjà venus. Dans les années 2000, je crois que c'est 2002, 2003, 2004, par là, les collègues des environs de Montpellier se plaignaient que dans les médiathèques, il n'y avait jamais de compteur pro. Il y a Oral, un truc d'amateur qui passait partout, donc ils n'avaient pas idée. Alors, pendant 3 années de suite, à Beaumont-du-Lac, vous savez, il y a des gîtes municipaux, on louait 3 gîtes, on invitait des bibliothécaires de l'Hérault, elles venaient et tout d'un coup, elles disaient « Waouh, le compte c'est ça, mais il y a plein de choses !» Dans les 5 ans qu'on suivit, toutes les bibliothécaires se sont mis à réclamer du budget, à faire venir des pros. Et maintenant, régulièrement, il y a des pros dans les bibliothèques de Montpellier, des environs. Et donc, vous voyez qu'on a une histoire commune avec Vassivière.
Et bah, plein de beaux projets. Est-ce que toi, on te voit aussi jouer aujourd'hui, demain, dans les restes du...
Ben, j'ai raconté hier à la sieste comptée. J'ai raconté tout à l'heure une petite histoire à l'apéro. Mais place aux jeunes. Depuis le Covid, j'ai beaucoup levé le pied. Pendant l'année du Covid, j'ai eu 10 de propositions. Moi, je suis retraité à mon âge, je n'ai pas besoin de vivre de ça pour vivre. Donc, à chaque fois, j'ai essayé de proposer un jeune conteur qui a des enfants, qui doit vivre, qui doit faire ses heures et tout, plutôt que d'aller, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de boulot, donc autant que ceux qui en ont vraiment besoin le fassent. Et alors, bah, évidemment, vous savez, le conte, hein, l'art, quand on n'est plus sur scène, on tourne moins, mais ce n'est pas grave. Je pense que c'est important qu'il y ait une relève. Voilà, moi, j'ai fait mon temps, hein. J'ai été 30 ans intermittent, à tourner à plein, je faisais 100 dates par an, je ne fais pas pleurer. Je souhaite à tous les jeunes conteurs et toutes les jeunes conteuses d'avoir la chance que j'ai eue et de tourner aussi bien que j'ai tourné, quoi.
Bah c'est des jolies paroles pour finir, mais j'avais d'autres questions. Malheureusement, on aurait pu s'arrêter là au montage, peut-être qu'on inversera. Moi, j'ai pas eu le temps de le visiter, ce village associatif, cette petite partie avec les artisans, les artisanes. Où est-ce qu'on te retrouve
Oh ben c'est simple, c'est la tente où il n'y a rien. Il faut dire qu'on avait commenté une super bannière pour mettre avec 25 ans d'AUT téméraire. Et puis elle devait arriver la semaine dernière, je ne l'ai toujours pas vue. Et là, ma fille qui est à Limoges, je l'ai fait envoyer là-bas pour si elle arrivait en retard, m'a annoncé ce matin qu'elle venait d'arriver. Donc cet après-midi, je vais aller jusqu'à Limoges et je la ramènerai. Demain, vous verrez la belle banderole. D'accord. Donc il n'y a rien à voir. Alors vous cherchez les tentes où il n'y a rien et où il n'y a personne parce que finalement, on va écouter les compteurs, donc il n'y a jamais personne. Alors on a mis les flyers avec nos formations pour l'année prochaine. Donc, on peut dire à tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez connaître notre programme de formation, vous allez au stand, vous piquez 1, 2, 3, 10, si vous voulez, flyers pour donner aux copains. Et puis voilà. Et puis, si vous tombez sur moi ou quelqu'un, vous nous le dites, on va vous expliquer ce qu'on fait. Et tous les gens qui me font le plaisir de me voir, s'ils ont envie, je leur raconte une histoire, parce que c'est quand même ça que j'aime faire, moi.
Et bah très bien, nous aussi à Radio Vassivière on promeut l'autogestion. Merci beaucoup d'être venu à notre micro pour nous raconter une belle histoire et plein d'autres jolies histoires d'autres conteurs et conteuses. Est-ce que à côté de nous, il y a Fleurane, il y a Jeanne, il y a Elliot. Est-ce que vous aviez une dernière question à poser pour refermer cette parenthèse?
Je réfléchis. T'en as une, toi?
Moi, j'avais une question qui me trotte dans la tête depuis que j'écoute les conteurs et conteuses qui viennent à nos micros depuis hier. J'ai l'impression qu'on n'a pas pris le temps de redéfinir ce qu'était le conte, en fait, parce que ce matin, on s'est demandé un petit peu... ce qui différait des autres genres littéraires. Est-ce que vous pourriez...
Alors, je peux répondre à cette question si vous avez 3 jours.
Ah. Oui, c'est ça, c'est pour ça.
Alors,
c'est
en résumé... Lancer,
Mais c'est pas mal, parce que comme il faut 1000 ans pour être conteur, 3000 ans pour écrire un conte, 3 heures ou 3 jours pour...
Pour résumer, qu'est-ce que c'est le conte? L'homme existe depuis combien de temps, l'Homo sapiens sapiens? 300 000 ans. Les plus anciens restes d'Homo sapiens, ils ont 300 000 ans. On les a trouvés au Maroc. Et puis, depuis combien de temps il y a de l'écrit? Invention de l'écriture, il y a 4000 ans en Mésopotamie.
Merci de répondre aux questions
et
historiques.
Et à peu près 100 ou 150 ans que dans nos pays développés, tout le monde sait lire et écrire.
Oui.
Ça veut dire que pendant 300 000 ans, moins 100 ans, les gens avaient de la culture, de la morale, de l'histoire, de la religion à transmettre. Donc, pour chaque chose qui se faisait par oral, on a inventé un type de récit. On a inventé les mythes pour transmettre la religion, la cosmogonie, l'anthropogonie, tout ça. On a inventé les épopées, c'est les récits nationalistes, vous savez, pour que les gens se sentent du pays, hein, comme l'histoire de Jeanne d'Arc qui boute les Anglais hors de France. On a inventé les contes merveilleux. Les contes merveilleux, c'est des contes psychanalytiques qui disent qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous grandissez, quand vous vivez. On a inventé jusqu'aux proverbes qui sont là pour dire la pratique. Qu'est-ce qu'on fait? Transmettre le... Vous voyez, tout devait être transmis, même le savoir pratique. Donc, par exemple, vous avez entendu, à Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. Sainte-Catherine, c'est le 25 novembre, si je ne m'abuse. Et donc, c'est le meilleur moment pour... Vous avez semé un arbre, il a 3 ans, il faut le mettre dans le verger, ben, c'est le bon moment. Vous voyez, tout est très transmis par oral. Donc, le conte, en général, c'est porter, être conteur, c'est porter tous ces récits. Évidemment, tous ces récits n'étaient pas pour divertir les gens. Ils étaient là pour dire la réalité du monde. Et donc, un bon conteur, c'est quelqu'un qui, à travers ses récits, dit la réalité du monde. Si je dis des bêtises, je ne fais pas mon boulot de conteur. Un artiste, en général, est là pour dire la réalité. Mais il le dit à travers un récit imaginaire. Et pour ça, il est comme un scientifique. Un mathématicien, il voit un damier, 10 cases par 10, il va dans l'imaginaire, il fait une multiplication. La multiplication, ça ne se cueille pas sur les arbres.
Non,
c'est bien de l'imaginaire. Donc, il fait un récit imaginaire, une multiplication, il trouve 100. On compte, ça fait bien 100 cases. Donc, on ne peut pas accéder à la réalité, on peut en donner que des représentations. Le scientifique, il donne une représentation de la réalité matérielle, concrète. Et l'artiste, il donne une représentation de la réalité humaine, c'est-à-dire comment on voit les choses. Vous voyez?
Oui.
Mais si mon conte ne dit pas la réalité, j'ai plus qu'à le mettre à la poubelle, ça n'a aucun intérêt. Voilà un peu ma définition, enfin ce que je propose comme définition du conte.
Merci beaucoup. Ça a éclairé ma lanterne.
Avec plaisir.
Et puis en plus, ça n'a pas duré 3 jours, puisqu'on aurait été en retard et puis on aurait pris l'antenne à d'autres gens, donc ça aurait été embêtant.
Voilà.
Merci beaucoup. Est-ce que Elliot, t'as retrouvé ta question depuis?
Moi, c'est une question un peu bateau, mais je me demandais quand même comment bien conter une histoire à l'oral. Enfin, est-ce que vous auriez un conseil ou des conseils
Pour débuter.
Tu veux t'y mettre?
Ouais, voilà, en fait.
Si tu veux t'y mettre, tu t'inscris à l'atelier, au stage d'initiation, tu vas avoir toutes les clés. Non, le fondamental de l'art du conte, c'est que on n'est pas en spectacle, il n'y a pas de quatrième mur, c'est pas descendant, c'est pas moi, je connais l'histoire et je vous la donne. Un conteur qui fait bien son boulot, il est un peu comme un enfant qui dit à ses copains « on dirait que ». On dirait que on est des chevaliers et on va détruire le dragon. Si tu es avec des copains, que tu joues, on dirait que on est des chevaliers, on détruit le dragon. Toi, tu as ton image, tu vois ton dragon. Mais le copain, il est peut-être dans une histoire qui n'a rien à voir. Il voit un dragon qui est complètement différent du tien. Peut-être le tien est géant, le sien, il n'est pas si grand. Mais ça marche. Et l'art du conte, c'est ça. C'est d'embarquer le public en disant, on dirait que, au lieu de dire « il était une fois », on pourrait dire, on dirait, j'ai une stagiaire, à force de lui dire ça, un jour je la vois sur scène, elle dit « on dirait qu'il y avait un roi et une reine ». Et ça fonctionne. Donc la différence, c'est que si je ne suis pas conteur, je raconte une histoire, tout le monde a l'histoire, il y a une histoire. Si je suis conteur, je raconte une histoire, chacun l'apprend et fait sa propre histoire. S'il y a 200 personnes dans la salle, à la sortie, il y a 200 histoires. Et là, le propre du conteur, c'est ça, par rapport au théâtre ou autre chose, c'est qu'il va y avoir 200 histoires. C'est-à-dire qu'au lieu que l'histoire se passe sur la scène, comme au théâtre, l'histoire se passe dans le monde intérieur de chacun des auditeurs. Et c'est ça qui est complexe à mettre en œuvre. Mais quand on y arrive, c'est waouh, c'est magique. Ça répond à ta question ?
Non, c'est pas mal comme réponse.
Ben merci, je suppose que je ne suis pas le seul conteur à dire ça.
Hein. Eh ben, écoute, on interrogera peut-être les suivants à nos micros. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé.
Avec grand plaisir. Et bon festival à tous ceux qui nous écoutent.
Eh ben ouais, merci, voilà, bon festival surtout, à toi aussi.
J'espère qu'il va faire encore 30 ans ce festival, que tous ces emmerdeurs qui essayent de tout casser et qu'ont le niveau culturel d'une betterave à sucre, ils vont arrêter de nous casser les pieds.
Très bien, bah on leur passera le message. Je me permets de faire une petite transition. Il va falloir passer le micro à Aurélien Ossé qui va nous parler des stratégies des papillons. C'est dans la Minute Papillon, c'est une chronique entomologie. C'est un petit peu pointu, mais vous allez voir, c'est raconté avec un accent du Sud absolument délicieux. Et vous saurez tout sur les papillons. Tout de suite, on écoute donc la Minute Papillon, c'est Aurélien Ossé.
La Minute Papillon. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Ossé. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des stratégies des papillons. Après avoir vu les moyens de défense de la chenille, la stratégie des durées des stades du cycle de vie, la migration et le mimétisme, il est important de noter que les papillons peuvent avoir d'autres stratégies pour survivre ou tout simplement résister aux prédateurs. Ces autres stratégies regroupent par exemple la technique de la chute ou la toxicité. Quoi qu'il en soit, la stratégie est l'art de combiner des opérations pour atteindre un objectif et celui du papillon est de vivre convenablement pour assurer une descendance. Les papillons paraissent légers, fragiles et mal armés pour survivre, contrairement à d'autres insectes. Le système de défense des papillons est tout simplement passif. Il ne possède ni protection rigide, comme les élytres chez les coccinelles, ni d'aiguillons de défense, comme les abeilles femelles. Ces stratégies visent donc à l'aider, dès le stade larvaire, pour vivre et survivre dans un environnement qui peut s'avérer hostile, constitué par les facteurs météorologiques, comme les basses températures, et différents prédateurs, comme les oiseaux, les araignées, ou encore d'autres insectes. Nous le savons, les papillons sont des insectes solitaires. Toutefois, on peut observer un certain type de grégarisme dans certaines conditions, comme l'hivernage dans les grottes, la migration ou l'alimentation quand des lichens se regroupent pour pomper les sels minéraux au sol. Le regroupement constitue ainsi une des stratégies des lépidoptères. Nous le devinons, en groupe, les papillons ont moins de risques de subir une attaque des oiseaux qu'isolés. Cette stratégie n'a été mise en évidence que chez le papillon Heliconius erato, un Nymphalidae qui vole toute l'année dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. Ce papillon ne montre aucun signe apparent de comportement social, ni même de grégarisme.
Mais le soir, les papillons se rassemblent en petits groupes pour passer la nuit accrochés à une branche. L'évitement du sonar est une autre stratégie. Les hétérocères nocturnes sont moins confrontés aux oiseaux, voire pas du tout, mais sont confrontés à la présence des chauves-souris qui chassent avec un sonar à ultrasons comme nous le savons. D'après la littérature, le sphinx parvient à tromper le sonar des chauves-souris. En fait, les poils qui couvrent le corps du papillon absorbent les ultrasons de la chauve-souris. Cette capacité repose sur le simple fait que les écailles sont disposées de telle sorte que les écailles créent comme un véritable effet de flou capable de tromper les ondes sonores. Les espèces de noctuelles ont aussi développé comme une résistance à ces prédateurs en ayant acquis tout simplement un organe capable de détecter ces ultrasons. Dans ce cas, cette stratégie d'évitement est associée à la chute. En effet, si détection il y a, le papillon se laisse tout simplement tomber au sol pour échapper à la chauve-souris. Il faut savoir que les parades des papillons comme l'émission de signaux d'alarme sont déjouées par les chauves-souris. Une étude publiée en 2009 mentionnait que le papillon de nuit, Bertholdia trigona, échappe quant à lui aux chauves-souris en brouillant leur sonar avec des ultrasons. La technique de la chute est une stratégie de la chenille qui s'observe aussi chez le papillon. Ce dernier, en cas de danger, se fait passer tout simplement pour mort et se laisse tomber au sol. Cette stratégie s'observe principalement chez certains hétérocères, les papillons dits de nuit, qui sont en mesure de capter les ultrasons des chauves-souris comme nous venons de le voir. Ainsi, à leur approche, ils se laissent tout simplement tomber pour les éviter. Une donnée de 1999 indique que cette stratégie est plutôt efficace. En effet, 7% des papillons qui l'utilisent sont au final capturés par les chauves-souris contre 50% de ceux qui ne l'utilisent pas. Enfin, terminons notre épisode avec la toxicité. Se rendre impropre à la consommation est une autre stratégie des lépidoptères pour échapper aux prédateurs qui gardent cette toxicité en mémoire. Elle est très efficace et ne fonctionne en fait que par l'apprentissage du prédateur qui a en mémoire la répétition de réactions de dégoût voire de vomissement par la consommation de papillons de la même espèce ou qui se ressemblent. Le papillon va chercher les molécules toxiques ou à mauvais goût dans les végétaux au stade larvaire sans en être incommodé. Par exemple, en Amérique, le papillon monarque acquiert sa toxicité par la consommation de l'asclépiade au stade de chenille et les papillons du genre Heliconius par la consommation des passiflores et le stockage des cyanoglucides. Les molécules toxiques ne sont pas digérées, mais stockées, et notamment dans l'hémolymphe, l'équivalent à notre sang chez les insectes. Adultes, l'individu les conserve malgré la métamorphose. Quelques autres espèces, d'après la littérature, ont développé cette stratégie, comme le sphinx de Leforme, présent en France métropolitaine. La thala, papillon de la famille des Lycaninae, qui vole en Floride et à Cuba, utilise lui de l'azoxyglycoside, une molécule toxique qui le rend impropre à la consommation pour les oiseaux et les autres prédateurs. Les hygènes sont toxiques, car elles contiennent dans leur corps de l'acide cyanhydrique. L'azygène diaphane, présente par exemple dans le Massif central ou dans les Yvelines, illustre le fait que les espèces de lépidoptères toxiques ont tendance à bien se faire voir des prédateurs. Pour cela, ces espèces arborent des couleurs dites d'avertissement constantes chez les insectes toxiques et venimeux, à savoir noir et jaune, comme les guêpes, noir et rouge ou noir et orange, comme le papillon monarque. Arborer de telles teintes vives pour prévenir d'un danger ou d'une toxicité est ce que l'on appelle l'aposématisme et se concentre chez d'autres animaux comme les grenouilles. Arborer de telles couleurs est aussi une forme de mimétisme. Enfin, outre la couleur, il faut savoir que chez les lépidoptères, la toxicité peut aussi être signalée par des sons. En effet, certaines espèces d'hétérocères toxiques émettent des sons audibles reconnus par les chauves-souris qui parviennent à très bien les identifier et ainsi à les éviter. La minute papillon. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Ossé.
Et on se dit au revoir alors que la pluie tombe et que les voitures passent à Ophel sur Radio Vassivière, mais on n'a plus beaucoup de temps pour se dire au revoir. Alors j'en profite quand même évidemment pour remercier mes fidèles camarades. On va commencer par Didier sans qui on ne s'entendrait pas, tout simplement. Donc merci à lui. Et puis évidemment la team Royer 2025, édition spéciale Parole de Conteur. On a donc Jeanne, merci. Est-ce que tu veux dire un mot?
Au revoir tout le monde.
Au revoir tout le monde. Florane, un mot? Merci à toi aussi évidemment.
C'était super, on a appris plein de choses, j'ai adoré.
Voilà, Emilia n'est plus avec nous, mais on la remercie aussi évidemment. Elle ne dira pas de mots, du coup, désolée. Elliot, un mot?
Merci, ouais, je suis très inspirée là.
Eh ben, merci à toi en tout cas. Nous, on se retrouve bientôt, on se retrouve demain à la même heure, donc midi, 14h, toujours sur Radio Vassivière, toujours en direct à Ophel. Toujours plein de comptes, des gens à écouter, plein de trucs à faire. Les chroniques habituelles, il y a l'agenda, il y a le jeu du répondeur. Et puis voilà, donc on se retrouve demain à la même heure, que ce soit physiquement ou sur le 88.6. Et puis à très bientôt sur Radio Vassivière.